Frères et sœurs, en ces jours où nous sommes, nos cœurs sont partagés entre contemplation et attente d'une action à venir. Le Seigneur Jésus vient de vivre son ascension, nous laissant un peu désemparés, et la venue de son Esprit ne s'est pas encore réalisée. Nous disposons ainsi de quelques jours pour nous préparer à célébrer, puis à vivre, le mystère de la Pentecôte. Or ce dimanche, nous venons de l'entendre, nous méditons la prière que Jésus adresse à son Père et qui contient ces mots « Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un » comme nous-mêmes. Jésus demande pour nous la grâce de l'unité, cette unité qui prend racine dans celle de Dieu lui-même. Au début de cette messe, comme au début de toute prière, en traçant sur nous le beau signe de la croix, nous avons manifesté l'unité de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. De la même manière, le Seigneur appelle ses disciples à rechercher l'unité, à la désirer, à la reconstruire quand elle a été abîmée. Sans doute, nous faut-il d'abord combattre une forme de résignation. Il se pourrait en effet que nous ayons l'idée, plus ou moins enracinée, que l'unité dont parle Jésus ne peut pas être vraiment atteinte. Qu'elle serait une forme d'idéal magnifique, mais inaccessible. À quelle unité nous appelle-t-il alors ? Il nous veut, dit-il, unis dans le nom de Dieu. Il n'est pas ici question d'uniformité, d'unanimité, ni même de consensus, autant de principes que nous associons parfois un peu vite à l'unité, laquelle se trouve plutôt définie comme un don qui nous est accordé par grâce de Dieu et non pas comme le résultat d'efforts que nous aurions à produire nous-mêmes. Et cette unité est garantie par le partage et la profession du même nom qui est celui de Dieu. Pourtant, vous l'aurez peut-être remarqué, même au sujet de Dieu, nous ne disons pas tous la même chose. Certains chrétiens parmi nous, par exemple, expriment une vive sensibilité à la transcendance de Dieu, à sa toute-puissance, à sa grandeur. D'autres chrétiens s'attachent davantage aux signes concrets et sensibles de sa présence dans le monde et dans la vie des hommes. Lesquels mériteraient de recevoir la palme de l'orthodoxie. La prière de Jésus prend alors une résonance nouvelle. Sanctifie-les dans la vérité, demande-t-il pour nous à son Père. Nous savons bien que nous commençons toujours à blasphémer le nom de Dieu, lorsque nous prétendons enfermer la vérité absolue qu'il nous révèle à ce que nous en avons d'ores et déjà compris et qui demeure par principe limité. C'est que la vérité de Dieu nous dépasse absolument. Poursuivant notre réflexion, un obstacle se présente à nous et c'est Jean, dans sa première lettre, qui trouve les mots pour le manifester. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Ne serait-il pas sage et prudent de renoncer à chercher celui qui échappe à nos regards? Ne serions-nous pas condamnés à l'ignorance plus qu'à la vérité quand il s'agit de connaître Dieu et plus encore de parler de lui? Nous ne pouvons pas évacuer trop facilement cette difficulté qui se pose à chacun d'entre nous. Du reste, nous connaissons bien toutes les objections à la foi que résume cette question parfois entendue. Mais comment pouvez-vous croire en celui que vous ne voyez pas ? Saint Jean lui-même explore ce mystère en commençant par une révélation magnifique. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Prenons le temps de mesurer la profondeur et la portée de la perspective ainsi dessinée. Par l'amour que nous apprenons à vivre et à offrir, à partager et à recevoir, c'est Dieu qui se rend présent en chacun de nous et entre nous tous. Le chrétien, proclamait volontiers les disciples des premières générations, est un autre Christ. Saint Jean, pour sa part, récapitule ainsi l'expérience de la foi. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Par conséquent, nous pouvons grandir dans la vérité en progressant dans l'amour reçu de Dieu, amour qui éclaire notre propre vie et qui purifie toute relation humaine des mauvaises tentations. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais il se rend ainsi visible. S'il nous reste encore un peu de courage, ce qui est permis à cette heure, nous pouvons affronter une dernière épreuve, peut-être plus redoutable que les précédentes. Parmi les tentations auxquelles nous sommes confrontés, figure en effet celle du mal, c'est-à-dire le refus de Dieu. Dans le premier discours public qu'il adresse aux disciples après l'ascension du Christ, Pierre parle de Judas. Il était l'un de nous et il avait reçu sa part de notre ministère, souligne-t-il à son sujet. Le grand péché commis par Judas n'est pas d'abord celui de la trahison, mais plutôt son incapacité à se laisser aimer par Dieu au-delà de la trahison. Avec sincérité et confiance, il avait répondu à l'appel de Jésus. Avec énergie et entrain, il s'était engagé à sa suite. Avec amour et fidélité, il était devenu apôtre. La rupture d'alliance n'en fut que plus douloureuse pour lui-même et pour les autres, une rupture dont il n'a pas trouvé la force de se relever. Ce mystère est redoutable car il nous demeure inaccessible et pourtant il nous concerne. Ayant été appelés par le Seigneur à devenir ses disciples, quel choix allons-nous faire? Il nous dispose à la foi et nous rend capables de cohérence et de fidélité. Et lorsque nous chutons, lorsque nous empruntons des chemins de traverse, et même lorsque nous trahissons les promesses de notre baptême, alors il prend de nous un soin particulier, et il nous relève par sa miséricorde. Déjà, le psalmiste chantait que le Seigneur met loin de nous nos péchés. Il nous apprend à combattre la tentation de la fatalité et de la résignation pour nous ouvrir, chaque jour davantage, à la joie de la foi et au dynamisme de la charité. Amen.